Donc, en tant qu'animateur Dialogue et Vérité, mon rôle, c'est de travailler d'une part à l'approfondissement intellectuel de la foi des étudiants que vous êtes, et d'autre part d'aider à réfléchir sur les liens entre la foi chrétienne et les choses qu'on peut étudier en cours. Je vous dirai un tout petit peu plus là-dessus, mais pour ce soir, ce que je vais essayer de présenter, c'est un peu le rôle de l'intelligence dans notre foi, et puis après comment ça entre aussi en interaction avec nos études. Et pour introduire ce sujet, je vais commencer avec quelques textes bibliques. On est au GBU quand même. Donc, d'abord, dans Proverbe 2, les versets 1 à 6. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si mes préceptes sont pour toi un trésor, si prêtons une oreille attentive à la sagesse, tu soumets ton cœur à la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la déterres comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte du Seigneur, tu trouveras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, et de sa bouche viennent connaissance et raison. Donc l'intelligence, la connaissance, la réflexion, ce sont des choses qui viennent de Dieu, et ce sont des choses qui sont aussi nécessaires pour connaître Dieu. Il y a besoin de les mettre en œuvre, et ce n'est donc pas un petit à côté qu'on peut laisser à la cave. Et j'aime bien le ton de ces proverbes qui disent vraiment qu'il faut chercher la réflexion et l'intelligence comme on cherche un trésor, que c'est vraiment, on met ses tripes dedans et on cherche jusqu'à qu'on y trouve. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une valeur. Ensuite, si je lis dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Ce passage nous invite à renouveler notre intelligence. Notre intelligence a besoin d'être transformée par la parole de Dieu. On n'est pas livré de série avec toutes les bonnes idées dans la tête, mais il y a des choses, on a vraiment besoin de les remettre un peu en place. Et la foi chrétienne peut aussi nous amener à nous distinguer du monde dans lequel on vit. Et on est appelé à ne pas se conformer à tout ce qu'on entend dans notre société ou éventuellement dans nos cours, mais potentiellement aussi à marquer la différence là où il faut. Un troisième et dernier passage de Colossiens 2, les versets 4 à 8. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par des beaux discours. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi dans le Christ. Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, vivez en lui. Enracinez-vous et construisez-vous en lui. Affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde, et non pas selon le Christ. Donc il y a aussi une certaine vigilance à avoir dans le domaine intellectuel. On va toujours trouver face à nous des gens pour faire des beaux discours, pour essayer de nous séduire ou de nous amener sur des voies fausses. Et Paul met en garde contre une philosophie qui serait fondée uniquement sur des principes humains et pas sur le Christ. Et donc la bonne question, ce n'est pas de penser ou de ne pas penser, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on met à la base. Et Benoît a utilisé tout à l'heure l'image de la maison. Et ben, l'idée, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui fait les fondations et sur quoi est-ce qu'on a construit nos murs et est-ce que ça va tenir. Donc, bref, l'intelligence et la réflexion sont des bonnes choses, mais il y a une certaine prudence à avoir en la matière. Et maintenant, j'aimerais passer sur quelques dangers et quelques erreurs qui pourraient, en quelque sorte, menacer notre bon emploi de notre cerveau et de notre intelligence. Le premier danger, ce serait celui de mettre notre intelligence en veilleuse. Alors, je pense que dans nos cours, on n'a pas trop l'option de faire ça parce que on est bien obligé de comprendre ce qui se passe. Mais le danger, ça serait d'être très réfléchi et très rationnel au niveau de nos cours et de nos branches d'études, et puis de tomber, par contre, dans un côté très irrationnel dès qu'il s'agit de la foi. Et ça, c'est un danger qui menace pas seulement les chrétiens, c'est assez courant dans notre époque, parce que quand on est dans un travail avec des exigences ou dans une discipline avec des examens, eh ben, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, il y a des raisonnements qui se tiennent et il y a des raisonnements qui ne se tiennent pas, donc on n'a pas trop le choix de réfléchir d'une manière qui tienne la route. Mais quand on est sorti de ce cadre, quand il s'agit de comment on voit le monde, quand il s'agit de nos décisions personnelles, quand il s'agit de la manière de gérer nos relations, eh ben, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à prendre une vision très relativiste, un peu chacun sa vérité, et il n'y a pas vraiment de critères pour savoir quelle chose est plus juste qu'une autre, et puis de toute façon, la raison et la réflexion, ça ne marche pas vraiment. Donc, on peut se trouver à avoir des gens qui sont très au fait de ce qui est rationnel et de ce qui est vrai dans leur cours, mais qui, dans leur manière de se comporter au quotidien, n'essayent même pas d'avoir une cohérence ou d'avoir un fondement intellectuel. Et puis, quand on est chrétien, on risque de justifier ça en disant que notre foi n'est pas dans la tête, mais qu'elle est dans notre cœur, que c'est le Saint-Esprit qui doit nous connaître et pas nos raisonnements, etc. Mais bon, je crois que les passages qu'on a lus tout à l'heure nous mettent déjà en garde contre cette idée-là. Et puis je crois aussi que ça pose plusieurs problèmes, cette mise de côté de l'intelligence. Le premier, c'est que je crois que si on utilise beaucoup moins notre intelligence dans notre vie de foi que dans nos études, eh ben, on n'a pas réellement tout donné à Dieu. On n'aime pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Parce qu'il y a tout un bout de notre pensée qu'on est prêt à utiliser en cours, mais qu'on n'est pas prêt à utiliser dans notre foi. Et là, c'est déjà un problème. Ensuite, une autre chose, c'est que Dieu a choisi de se révéler par la parole, par le langage, en particulier au travers de la Bible. Et le langage et la parole, c'est la manière de communiquer des idées rationnelles, de communiquer d'un être rationnel à un autre être rationnel. La Bible, c'est Dieu qui veut entrer en contact avec notre intelligence par le biais d'une communication intelligible. Et on ne peut pas comprendre la Bible sans passer par notre intelligence. Donc, on ne peut pas s'en passer. Et si on essaie de tout bâtir sur les émotions, bien la Bible ne nous servira pas à grand-chose. Et la troisième chose, c'est que si ce qu'on croit n'est pas ce qu'on sait être vrai, si ce n'est pas ce dont on est convaincu que c'est solide et que ça tient, c'est que ce qu'on croit, c'est juste quelque chose d'émotionnellement agréable ou une préférence personnelle, eh ben, je suis assez convaincu que ça ne tiendra pas le jour où il faudra vraiment la mettre en pratique et où ça coûtera vraiment quelque chose. Et je dirais même qu'aujourd'hui, même si ce sont difficultés particulières, si notre foi n'est pas intégrée dans notre manière de voir le monde, je suis très certain qu'on manque plein d'occasions de mettre notre foi en pratique parce qu'on ne voit simplement pas ce qu'elle implique. Alors après, une fois que j'ai dit tout ça, il faut bien me comprendre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir un QI de 140 pour être un bon chrétien. Le message de l'évangile, c'est un message qui est accessible à tous, et il n'y a pas de différence de valeur entre individus. Jésus est venu pour les simples comme pour les génies, il n'y a aucune différence de ce côté-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez un 140 points de QI, eh ben vous avez 140 points de QI à utiliser dans votre foi. Et si quelqu'un a un QI de 75 et qu'il utilise ses 75 points de QI dans sa foi, et bien je suis sûr que Dieu est content avec ça et qu'il apprécie. Et Jésus a dit « Heureux les simples d'esprit » et je suis sûr qu'il ne va pas revenir là-dessus. Mais si vous avez 140 ou 120 ou 90 points de QI et que quand il s'agit de foi, vous pensez comme si vous en aviez 75, et bien là, je crois qu'il y a un problème et puis qu'il manque quelque chose et qu'il y a un bout de votre pensée qui a besoin d'être mis au travail. Donc, premier danger, c'était ce côté de passer dans une foi un peu irrationnelle, un peu qui choisit d'être aveugle. Un autre danger, c'est celui de faire une séparation totale entre ce qu'on croit par la Bible et ce qu'on étudie en classe. C'est possible d'avoir une lecture intelligente de la Bible, de bien comprendre le contenu et d'essayer de la mettre en pratique comme on peut, et en même temps de très bien comprendre ce qu'on voit en cours, mais de ne pas faire de lien entre les deux, d'avoir l'impression que c'est vraiment deux choses à part. Et c'est une tendance qu'on peut avoir, et que même certains ont parfois défendu, de dire ben voilà, il y a la science pour comprendre comment marche le monde, il y a les sciences sociales et psychologiques pour comprendre l'être humain, et puis il y a la Bible pour comprendre Dieu, et puis comme ça ne parle pas de la même chose, et bien il n'y a pas de conflit, pas de discussion, et puis tout le monde est tranquille dans son coin. Mais bon, vous m'aurez vu venir, je ne pense pas que c'est une bonne idée. D'une part, parce que Dieu s'est révélé à des vrais êtres humains dans le vrai monde, et que toutes nos disciplines essayent d'étudier le vrai monde. Donc, si la Bible dit quelque chose et que nos disciplines en disent une autre, eh bien, c'est qu'il y a un problème, et c'est qu'on ne doit pas parler de la même chose. Alors, bien sûr, il y a des regards différents qu'on peut avoir sur le monde, peut-être certains plus justes que d'autres, peut-être d'autres qui se complètent, mais il faut pouvoir les mettre côte à côte pour voir si ça colle ensemble et puis si c'est cohérent, ou bien s'il y a une contradiction irréductible, ou d'une manière ou d'une autre, il y en a un des deux qui va devoir changer. Et puis l'autre très grand problème que je vois avec cette séparation, cette absence de lien, c'est qu'avec cette vision-là, on ne saura jamais comment parler à nos camarades d'études non chrétiens, parce que eux, ils vivent que dans le monde de nos études et pas dans le monde de notre foi. Et donc, quand on se met à leur parler de notre foi, tout à coup, on leur parle d'un monde qui n'est pas de leur. Donc, il faut vraiment faire très attention à cette espèce de schizophrénie qui voit deux choses, qui voit le monde de manière complètement différente selon qu'on est en cours ou qu'on lit la Bible. Et je crois vraiment que si on change d'identité et de vision du monde selon le cadre où on est, on a un gros problème et on n'est pas une personne entière. On est, je suis tenté de dire, un hypocrite au sens étymologique, c'est-à-dire quelqu'un, un acteur qui met un masque et puis, ah tiens, je suis à l'église, je change de masque. Ah tiens, je suis à l'EPFL, je change de masque. Et je dois d'ailleurs dire que sans l'avoir forcément décidé de manière consciente, quand j'étais à l'EPFL, je me suis trouvé un peu dans cette situation que tout à coup, la conversation au repas de midi vient sur des sujets un petit peu liés à la foi, et puis c'était un petit peu crise de panique, mince, il faut que je passe en mode chrétien, enfin, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis et effectivement, ça ne marche pas du tout. Ouais. Et puis, je voudrais encore souligner que ce n'est pas seulement le cas quand on étudie des branches très académiques et qu'on est dans la recherche, même dans des formations orientées plus vers la pratique, il y a toujours une vision de l'être humain, une vision du monde qui est transmise et qui peut se confronter à celle qu'on a dans la Bible. D'ailleurs, même le simple fait de vivre dans la société où on est, dans l'époque où on est, nous expose à une autre vision du monde avec laquelle il faut savoir se confronter, se distancier quand il faut, l'adapter quand c'est approprié. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire des recherches fondamentales pour que ces questions-là se posent. Et puis maintenant, le troisième grand danger que je voudrais souligner, c'est plutôt celui d'être absorbé par la pensée du monde ambiant. C'est donc par exemple de très bien comprendre ce qu'on étudie et puis de l'appliquer directement dans tous les domaines de notre vie, y compris celui de la foi, sans avoir rien remis en question, et puis finalement de comment en finir par expliquer la foi dans les termes de ce qu'on a vu en cours, expliquer pourquoi il y a des gens qui sont croyants strictement en termes sociologiques, et puis penser qu'une fois qu'on a dit ça, on a fait le tour de ce qu'est la foi. Et bien là, c'est à mon avis carrément le naufrage de la foi chrétienne, c'est qu'il y a un des deux côtés qui a clairement l'emporté sur l'autre. Et puis je crois aussi que, en plus, c'est un problème de se laisser absorber par la vision d'une discipline en particulier, parce que toutes nos disciplines sont sous-tendues par un certain nombre de présupposés et Et chaque discipline transmet une certaine vision du monde. Il y a dans tous les domaines certaines choses qui sont à la base, qui ne sont pas prouvées par la discipline, mais qui sont les bases sur lesquelles elle se bâtit. Et puis, ces différents présupposés et les différentes visions du monde auxquelles elles aboutissent ne sont pas forcément compatibles entre elles, ni avec la foi chrétienne. Et puis, je vais prendre deux exemples en utilisant deux gros mots qui sont l'anthropologie et l'épistémologie. Donc, l'épistémologie, c'est la question de comment est-ce qu'on peut connaître, comment est-ce qu'on peut savoir, comment est-ce qu'on connaît des choses de manière sûre et comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui est vrai. Et puis, l'anthropologie, c'est la question de qui est l'être humain, qu'est-ce que c'est que d'être un homme, pourquoi est-ce qu'on se comporte comme on le fait. Alors, du côté de l'épistémologie, je vais montrer peut-être trois approches. Une, c'est l'approche des sciences expérimentales. Toute connaissance doit partir d'une observation. Et puis, on répète les observations, et à force d'observation, eh ben, on essaye de construire un modèle qui va prédire essayer de reproduire et de prédire les observations. Et puis, on peut sans arrêt changer de modèle si ça ne colle plus aux observations qu'on fait. Ensuite, d'un autre côté, il y a la vision plutôt rationaliste, c'est connaître par la raison et par la réflexion elle-même. Donc si je réfléchis bien, si je construis un système qui est cohérent, qui ne se contredit pas lui-même et qui part de ses bases, alors je pourrais connaître ce qui est vrai. Donc ces deux visions-là, je crois que c'est en gros celles qui cohabitent dans le monde scientifique, qui cohabitent plus ou moins bien avec des variantes. Typiquement, du côté des mathématiciens, ça sera plus l'approche rationnelle, cohérence et tout ça, parce que les expériences en mathématiques, c'est un peu dur à réaliser. Côté plus sciences expérimentales, physique, ingénierie et tout ça, ça sera beaucoup plus ce côté expérience et observation. Mais au-delà des PFL, il y a d'autres visions d'épistémologie qui existent, en particulier ce qu'on appelle l'épistémologie postmoderne, qui, elle, remet carrément en cause l'idée qu'il y ait une réalité objective, qu'il y ait quelque chose à connaître qui existe indépendamment de nous. On va penser que la vérité, c'est simplement un produit de notre pensée, de notre réflexion. Et puis, ça mène à dire des choses comme la vérité, c'est ce que les autres me laissent dire. Donc là, jusqu'à maintenant, je crois que j'ai dit la vérité. On va voir aussi toute connaissance et tout savoir comme une émanation de certains mécanismes sociaux, comme le produit du groupe social qui a produit ce savoir. Chacun dans son coin essaye d'imposer son savoir aux autres et la question du savoir devient surtout une question de pouvoir qu'on a sur les autres ou qu'on prend sur eux. Et puis, le slogan de cette approche, c'est de dire un peu « Oui, c'est peut-être vrai de ton point de vue. » Et donc là, on a vraiment sur cette question des visions qui sont assez incompatibles et je suis sûr que vous avez tous été confrontés, enfin que chacune de ces visions, certains d'entre vous l'ont vu dans leur cours ou alors l'ont vu sous-entendu. C'est vrai que de mes souvenirs des PFL, on n'a pas passé beaucoup de temps à se demander ce qu'était la science, comment on fait pour savoir ce qui est juste, etc. Enfin, le côté philosophie des sciences, à part pour ceux qui prennent le SHS correspondant, c'était pas trop au menu. C'est vrai que souvent, la question des fondements n'est pas forcément posée, on ne vous dit pas forcément, on part de là pour construire tout ce qu'on dit, et pourtant, tout le monde, d'un certain côté, le fait, qu'il en soit conscient ou pas. Et c'est ça qui pose un petit peu des problèmes. Voyons, combien de temps j'ai pris déjà? Rapidement sur l'anthropologie, sur le qui est l'homme, là aussi il y a plein de visions un peu différentes qui cohabitent. Typiquement, je pense que ceux qui sont dans les domaines de la santé ont deux visions à eux tout seuls, une du côté des problèmes de santé, comment fonctionne le corps et comment le soigner, et une autre, comment interagir avec le patient, le contact, les relations humaines et tout. Si vos cours sont bien, peut-être même que vous arrivez à mettre les deux en lien et à ce que ça se ça ne se marche pas trop dessus. Mais après, du côté des sciences sociales, on va se concentrer sur les mécanismes sociaux, toutes les influences qu'on a les uns sur les autres qui font qu'on se comporte d'une certaine manière et puis qu'on croit qu'on a pris des décisions, mais qu'en fait, on est conditionné par notre milieu. Je caricature un peu, c'est pour aller vite. Ensuite, la psychologie va plus se concentrer sur la construction de la personne, des mécanismes internes, etc. Vous ajoutez là-dedans l'économiste qui, lui, pense que chaque personne fait des choix assez rationnels et de manière très individuelle en maximisant leur utilité personnelle. Vous prenez, après, les biologistes ont peut-être tendance à regarder aux hormones et aux processus neuronaux pour expliquer les réactions des gens. Et puis les physiciens seraient peut-être tentés de regarder les gens comme un gros tas d'atomes qui ont des interactions assez compliquées et que ça mène quelque part. Bref, ça fait pas mal de visions différentes. Et la question, c'est un petit peu de savoir si tout ça tient ensemble. Et honnêtement, je me suis trouvé des fois à observer des conversations où j'avais vraiment l'impression d'avoir deux personnes qui ne vivaient pas du tout dans le même monde et puis qui essayaient de communiquer. Et de fait, du point de vue de leurs études, ça devait être à peu près le cas. Parce que, entre la vision d'un économiste, celle d'un étudiant en Sciences Po et celle d'un physicien, il n'y a des fois pas énormément de points d'accroche communs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, en tant que chrétien, je crois que ce problème des présupposés, ça vient aussi du fait que l'homme n'était pas fait à la base pour se débrouiller tout seul sans Dieu, mais l'homme était fait pour être en relation avec Dieu et pour recevoir de Dieu le nécessaire pour vivre, pour penser et pour agir. Et en particulier depuis que l'homme s'est rebellé contre Dieu, et bien l'homme a besoin de la révélation de Dieu pour connaître les choses de manière vraiment juste. Et comme l'homme a essayé de se débrouiller tout seul, et bien ça a résulté d'une part dans ce fractionnement des savoirs où on n'arrive plus à tout mettre ensemble, et puis d'autre part dans le côté un peu irrationnel dont je parlais assez au début, dans le sens où, à une époque, on a essayé de tout comprendre par la raison, elle toute seule, en laissant de côté Dieu, la révélation, la foi et tout ça. Et puis, à un moment, ça s'est cassé la figure, on s'est rendu compte que la raison ne permettait pas de trancher sur le sens de la vie, la morale, comment se comporter, qu'est-ce que l'amour, etc. Et puis, comme on avait décidé de tout baser sur la raison et que la raison ne marchait pas, eh ben, on en est venu à penser ben, que là-dessus, enfin, que la seule chose qu'on connaissait bien, c'est ce qu'on connaissait rationnellement, et que toutes ces choses-là n'étant pas connaissables rationnellement, eh ben, on n'en connaissait rien du tout, donc on faisait un peu comme on voulait, comme ça nous chantait, parce que de toute façon, il n'y avait rien à savoir là-dessus. Donc ça, c'est un petit peu, il me semble, ce qui s'est passé dans le monde en général. Et je crois que ce dont on a besoin pour pallier à tout ça, c'est d'une pensée chrétienne qui se base sur des présupposés qui viennent justement de la révélation de Dieu dans la Bible. Je vais vous donner quelques exemples de présupposés sans trop les développer, mais des choses qu'à mon avis on peut tirer de la Bible. Si vous n'êtes pas d'accord, on en discute après. Donc, d'abord, l'idée que le monde a été créé par un être intelligent et que le Créateur a donné au monde des lois stables. Dans le sens, sans Dieu, on peut se demander pourquoi est-ce que les lois physiques seraient stables, pourquoi est-ce qu'elles existeraient au premier chef. Alors que parce qu'on sait que quelqu'un d'intelligent a créé le monde, eh ben, on sait que ça va fonctionner d'une manière qui sera plus ou moins compréhensible. Et je crois que ça explique aussi pourquoi la science occidentale moderne est née dans un monde chrétien et pas ailleurs, parce qu'il y a d'autres philosophies qui permettait pas du tout de voir le monde de cette manière-là et d'observer en pensant que on va pouvoir comprendre et que ce qu'on comprendra aujourd'hui sera encore valable demain. Donc, ensuite, il y a l'idée d'un homme créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que tous les hommes partagent une nature humaine qui est une chose en soi et qui ne dépend pas de notre degré de développement ou d'éducation, qui ne dépend pas de si on a la trisomie 21 ou pas, mais qui vient du fait qu'on est homme et que Dieu nous a créés. Ensuite, ça entraîne aussi l'idée d'un homme qui est digne, d'une vie humaine qui a une valeur en soi. On voit aussi dans la Bible l'idée que l'homme est responsable de ses actes. Donc là, d'une certaine manière, ça va entrer en friction avec tous les déterminismes, tout ce qui dit vous croyez que vous avez fait certains choix, mais en fait, c'était tout écrit d'avance. Que ça soit par la physique ou par la sociologie ou par des processus psychologiques, on trouve un peu cette tension de déterminisme partout. Et je crois que ça entre clairement en friction avec la vision de l'homme que la Bible présente. Ensuite, il y a aussi le fait, comme j'ai dit, que l'homme était fait pour vivre en relation avec Dieu, mais que l'homme s'en est éloigné et que donc ses facultés, ses capacités maintenant sont déficientes et ne fonctionnent plus comme elles devraient. Il y a l'idée aussi que le bien et le mal ont une existence en soi, en dehors de l'homme. Donc le bien et le mal, ce n'est pas juste ce qu'on va décider entre nous, que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est quelque chose qui est extérieur à nous et on peut être plus juste ou moins juste dans les décisions qu'on prend, même si on les prend tous ensemble. Et puis, une dernière chose, peut-être moins fondamentale, mais qui est quand même assez intéressante, c'est l'importance de la transmission entre les générations. En particulier dans l'Ancien Testament, on voit cette conscience très forte que tout peut vraiment partir dans les décors si une génération ne transmet pas à la suivante ce qu'elle sait, ce qu'elle a appris de Dieu et ce qu'elle a vécu. Et voilà, ça c'était la partie pour la HEP, mais qui est assez intéressante de toute manière. Bon, donc ce genre de choses, ça nous donne certaines bases qui me semblent bibliques, mais c'est clair que ça ne nous donne pas une vision complète du monde, ça ne nous donne pas de tout savoir sur tout, et il ne s'agit pas de lire la Bible comme manuel scientifique qui va tout nous expliquer à la place de tout le reste. Mais c'est plutôt les bases à partir desquelles on va pouvoir construire quelque chose, mais après, pour comprendre tout ce qui se passe, on a encore besoin de la démarche de réflexion et de recherche. Donc, l'idée du message de ce soir, ce n'est pas du tout de dire qu'il faut fermer l'UNI et ouvrir la Bible. Ouvrir la Bible, c'est bien, mais l'UNI est tout à fait utile. Simplement, il faut pouvoir l'interroger sur d'où elle part et sur quoi l'UNI se base pour construire la connaissance qu'elle nous propose. Et puis, quand on se trouve face à un conflit, face à un endroit justement où ça frotte, il ne faut pas forcément tout de suite dire la Bible dit ça, les cours disent ça, les cours ont tort, fin de la discussion. Parce que d'une part, il se peut très bien qu'on ait mal compris la Bible, parce qu'on n'est pas parfait non plus. Et puis d'autre part, c'est beaucoup plus productif si, en partant du problème, on se pose la question, mais d'où ça vient, d'où ça sort, pourquoi cette discipline arrive à cette conclusion-là, et puis d'essayer de remonter la chaîne jusqu'à qu'on trouve l'endroit où il y a un point de départ qui tombe vraiment de nulle part, et puis qu'on peut contester. Et puis, une fois qu'on a trouvé ce genre de point, là, ça peut faire quelque chose de très intéressant à discuter avec des gens qui sont dans la même branche. Parce que là, on parle de, dans ce qu'on a en cours, c'est basé sur ça, c'est basé sur ça, mais à un moment, il y a ce problème, parce que là, il y a une hypothèse, on la sort d'un chapeau, et on ne peut pas la justifier. Et moi, parce que je suis chrétien, et que je lis la Bible, je pense que ce n'est pas cette hypothèse-là qu'il faut prendre, mais c'est celle-là que Dieu nous montre dans l'Écriture. Donc c'est un petit peu ça, je pense, la démarche qui devrait se mettre en route. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, avec tout ce que j'ai dit, pour ne pas tomber dans ces dangers de la foi irrationnelle, dans la schizophrénie entre deux mondes, ou dans l'adaptation totale au monde et à nos disciplines? D'abord, je crois que c'est important de nourrir notre intelligence avec la Bible, qui nous révèle qui Dieu est et qui l'homme est face à Dieu. Alors après, bien sûr, c'est clair que la foi chrétienne, ce n'est pas juste un ensemble de doctrines pour faire un bon chrétien. Il y a une transformation du cœur qui se produit quand on croit en Jésus. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est nécessaire d'être renouvelé dans notre intelligence. Notre manière d'agir, notre manière de prendre des décisions, notre manière de peser le pour et le contre dans tous nos choix de vie, elle est influencée par notre manière de voir le monde et de le comprendre. Et s'il n'y a pas une transformation de notre intelligence, nos actions vont manquer de cohérence avec notre foi. Et je crois que c'est la bonne occasion de rappeler le second des GBEU, croire, penser et agir. Et je crois que c'est dans le bon ordre. Je crois qu'en partant de notre foi, on a besoin de penser pour savoir comment agir de manière juste. Et pour ça, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit avec le GBEU, puisque le but, c'est justement de lire la Bible ensemble, de bien la comprendre et de voir comment elle s'applique après dans nos vies et dans nos actions. Ensuite, une autre chose dont je crois qu'on a besoin, c'est de retrouver le sens du débat. C'est d'être prêt à discuter quand on voit qu'on n'est pas d'accord, et puis de voir quels sont les arguments, et puis de voir si les choses se tiennent ou pas. On est dans une ambiance qui est très portée sur la tolérance molle, où si on n'est pas d'accord, on ne va pas trop discuter, parce que voilà, on risquerait de s'énerver, puis ça serait quand même un peu dommage. Alors que personnellement, je suis assez convaincu du contraire, et que j'ai l'impression de m'être plutôt rapproché d'un certain nombre de personnes grâce à de ces grandes discussions, débats, où on part d'un truc où on n'est vraiment pas d'accord, et puis où poliment mais fermement, on s'explique nos arguments, on s'explique les raisons de nos positions, et puis avec ça, on apprend à connaître les gens, leur manière de penser, et puis ça affine nos réflexions, on voit quels sont les arguments qui se tiennent et ceux qui ne se tiennent pas dans notre manière de voir, et puis ça nous permet vraiment d'avancer. C'est pas moi qui ai choisi le nom Dialogue et Vérité pour le poste dont je m'occupe, mais je suis assez convaincu du concept. Je suis assez convaincu que c'est justement dans le dialogue, dans le fait de parler ensemble et de se confronter, qu'on peut progresser vers la vérité, vers une compréhension de ce qui est vraiment juste. Et là aussi, ça tombe bien, vous êtes plein de gens jeunes et intelligents, et donc n'hésitez pas à confronter vos idées, à confronter vos idées sur la Bible, à confronter vos idées sur le monde, à vous confronter entre vous et vous confronter avec les gens autour de vous. Et je crois que c'est vraiment intéressant et passionnant. Puis, après, pour la question aussi, la foi vis-à-vis des études, il y a justement ce fameux projet Dialogue et Vérité dont je m'occupe, dont la manière de fonctionner principale, c'est de réunir des petits groupes d'étudiants bien motivés pour mener un travail justement de réflexion sur le lien entre la foi chrétienne et des disciplines académiques. Et puis donc dans ces groupes-là, mon rôle à moi, ça serait un peu, d'une part de poser un peu le cadre et puis de présider, parce que quand même je suis payé pour ça, et puis de faire aussi un peu un apport théologique, tandis que sur vos disciplines à vous, vous êtes tous beaucoup plus compétents que moi, donc ça serait des groupes où chacun amène sa part, et puis on essaye de creuser justement un petit peu où sont les liens et où sont les conflits entre ces domaines. Je vais vous donner un ou deux exemples de choses qui se sont faites dans le passé, quand ce n'était pas moi. Il y a eu un groupe d'étudiants et de doctorants en droit à Genève qui ont fait un travail sur la liberté religieuse. Il y a un groupe d'étudiants en histoire qui a réfléchi sur quels sont les fondements de l'histoire et les bases de la discipline. Et puis il y a un groupe d'étudiants divers qui a travaillé sur les rapports entre foi et littérature sur la base du livre « Les frères Karamazov » de Dostoïevski, donc qui contient pas mal de réflexions sur Dieu, sur l'homme et la société. Et puis, petite interlude, s'il y en a certains qui ont vu la Cité de la peur et qui sont restés bloqués sur la réplique « Serge Karamazov, aucun lien, fils unique », c'est à cause de ce bouquin-là, « Les frères Karamazov ». Donc, bon. Comment ? Oui, je sais. Et puis après, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Par exemple, dans n'importe quelle discipline, on peut se poser la question quels sont les présupposés et quelle est notre manière de connaître et de déterminer ce qui est vrai dans cette discipline. Il y a toute la question de à quel point la science permet de connaître la réalité et à quel point c'est un discours qui tourne en rond. Voilà, des choses sur l'instruction, l'éducation et la foi. Bref. Plein de choses sont possibles. Après, en fait, ça dépend des gens que ça intéresse. Et puis, une fois qu'il y en a que ça intéresse, on se met d'accord sur ce qu'on va faire ensemble. Et donc, si il y en a parmi vous que ce projet intéresse, vous pouvez me contacter, soit tout de suite, on me saute au-dessus à la sortie de la soirée, soit m'envoyer un mail, passer sur la page Dialogue et Vérité du site gbeu.ch. Donc, il faut aller sous Université Dialogue et Vérité. Et puis, voilà, bref, vous me faites signe, et puis après, on peut définir un sujet, un angle d'approche, éventuellement recruter d'autres personnes. Et puis, voilà, j'espère qu'on pourra faire des choses intéressantes avec ça. Et puis, tant qu'on parle de mon rôle, je suis aussi à disposition pour intervenir dans des groupes GB, pour parler de certains sujets sur foi études, ou des sujets bibliques, ou des sujets théologiques. Et puis si individuellement, vous avez un point sur la Bible ou la théologie qui vous taraude, eh ben, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Je fais volontiers ce que j'appelle la hotline théologique. Donc vous m'envoyez un mail et puis j'essaie de répondre à quelques indications utiles basées bibliquement. Et puis voilà, c'est gratuit et puis c'est satisfait ou remboursé. Ouais. Et puis, tant qu'on est sur les choses un tout petit peu techniques, encore deux choses. Une, je vais mettre les notes de ce que j'ai dit ce soir en ligne sur le site DGBU d'ici samedi, je pense. Donc si vous avez envie de revoir un petit peu tout ce que je vous ai balancé un peu vite, eh ben, vous pourrez aller voir. Et puis, je vous recommande aussi deux livres, donc « Démission de la raison » de Francis Schaeffer et puis « Plaidoyer pour une foi intelligente » de John Stott, édité par les GBU, donc c'est bien. Donc, les deux livres sont au bureau des GBU. Démission de la raison, vous le trouvez aussi sur Internet en libre accès. Ce n'est pas très gros et c'est très intéressant pour justement un petit peu pour ce problème de la réflexion qui a voulu se passer de Dieu et puis qui a fini dans les décors. Et puis, bah, plaidoyer pour une foi intelligente, ça parle de soi-même. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire ça. Donc, bref, j'arrive finalement au bout. Ce que je voudrais que vous reteniez du message de ce soir, c'est l'importance d'avoir une personnalité unifiée et une pensée unifiée. Donc il ne s'agit pas de devenir un cerveau sur pattes qui n'a plus ni foi, ni émotion, ni relation, mais au contraire, c'est que tout dans notre personne soit lié et cohérent, que ce qu'on croit agisse sur notre pensée et que nos actions soient transformées par là. Croire, penser, agir. Et puis au niveau de notre pensée, l'idée, c'est que notre pensée aussi soit unifiée, que ce qu'on sait par nos cours soit en continuité avec ce qu'on sait par la Bible et qu'on en arrive vraiment à vivre dans un seul monde, à pouvoir ne pas changer de façon de voir les choses selon où on est, mais vraiment tout faire coller ensemble. Et donc, il me reste à vous souhaiter une bonne année de cours, une bonne année de GBU, et puis j'espère que j'aurai encore l'occasion de cheminer avec plusieurs d'entre vous.